France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Et j'accueille aujourd'hui Michel Jonas, une des plus grandes voix de la chanson française, auteur, compositeur, interprète dont nous connaissons tous les refrains, si poétiques aux couleurs de blues et aux parfums envoûtants, Super Nana, La Boîte de Jazz, Les Vacances au bord de la mer et beaucoup d'autres menus dans quelques minutes pour cet entretien avec Michel Jonas. En fin d'émission, Maurice André et la musique légère par Serge Laïc. Mais d'abord, pour bien commencer, c'est le moment de faire un peu d'échauffement.
Come on, baby, see about me now, yeah. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on. She can do the ballet all night long, yeah, yeah. What I say, all right. Well, tell me what I say, yeah.
Bonjour Michel Jonas.
Bonjour.
On pourrait dire, en résumé, c'est comme ça que tout a commencé.
On pourrait le dire, hein, c'est vrai.
Un jour, vous avez entendu cette chanson et puis vous avez décidé que vous seriez pianiste, musicien. Tout est parti de là.
En fait, je ne me suis pas dit ça quand j'ai écouté cette chanson-là, mais j'ai eu un choc. Et c'est vrai que quand je l'écoute là, je retrouve la même émotion. C'est une chanson qui ne sera d'abord jamais démodée, parce que c'est un truc. Et c'est vrai que ça m'a fait un choc. Je me rappelle, c'était dans le sud, j'étais en vacances. Il y avait des salles de jeux, vous savez, où il y avait des flippers, où il y avait des jukebox, ouais. Et on jouait comme ça, mais il y avait des pièces de 20 centimes, et on jouait. Et quelqu'un a mis cette chanson-là.
Ray Charles, vous connaissiez pas?
Ah, mais non! Ouais. Et j'entends ça, et ça m'a, mais vraiment, quoi, bouleversé, certainement. Et je me suis pas dit, non, je veux faire de la musique tout de suite, etc. C'est pas ça, c'est que j'avais entendu de la musique avant, bien sûr.
Bien sûr.
On en parlera certainement.
On va en parler, mais vous avez quand même assez vite cherché sur votre piano,
voilà,
à essayer de retrouver le style
plus tard,
de Ray Charles.
C'est ça, le style Ray Charles. Et c'est drôle parce que il y a une légende autour de cette chanson. C'est-à-dire, on dit que il lui manquait une chanson, oui, ou que c'était peut-être un rappel, et qu'il aurait improvisé. J'ai beaucoup de mal à croire à cette légende. Comment il a pu improviser ça avec les choristes,
oui,
qui
répondent? C'est très bien construit. Hein.
C'est très très bien construit, voilà. Mais c'est magnifique, c'est un vrai chef-d'œuvre du rhythm and blues.
Vous lui avez d'ailleurs rendu hommage plus tard dans l'album,
oui,
Univers l'Unique. Il y a une chanson, Ray Charles.
Hein, Ray Charles,
voilà,
oui,
qui est resté un de vos dieux. Mais ce qui me frappe, parce que finalement dans la chanson française, bon, il y a le côté variété, il y a l'influence du jazz, il y a l'influence, oui, du rock, mais la soul, le rhythm and blues, c'est pas si répandu que ça. Et vous avez été vraiment un peu la voix de la soul et du rhythm and blues dans la chanson française.
Merci, c'est flatteur, mais en tout cas, c'est vrai qu'autour de moi, il y a eu comme un espèce de malentendu me concernant,
à cause de la boîte de jazz.
Je dirais à cause. Oui, ça a été une étape très importante, ce succès de la boîte de jazz. Et effectivement, moi, assimilé au jazz. Or, je l'ai dit très souvent, c'était pas la musique qui m'a donné envie d'en faire. Moi, c'est vraiment le rock and roll, c'est le blues, c'est les années 60.
C'est James Bond aussi.
C'est le
d'autres.
Alors c'était après. Ah oui. Oui, James Brown, bien sûr, Wilson Pickett, Otis Redding, James Brown, tous ces gens-là, je les ai vus sur scène d'ailleurs, c'était extraordinaire.
Ah oui.
Mais c'est vrai que ça a été ça, principalement ma nourriture et ce qui m'a donné envie de faire de la musique, effectivement. Voilà. C'est-à-dire le rock'n'roll, le rhythm and blues, beaucoup plus que le jazz. Pour moi, le jazz, quand j'étais ado, c'était une musique d'intellectuel, je comprenais pas bien. J'ai évidemment appris à la découvrir et à l'apprécier par la suite, mais c'est pas le jazz du tout qui m'a donné envie.
Ce malentendu, vous lui devez quelques tubes finalement.
Oui, je lui dois beaucoup, donc je lui en veux pas à ce malentendu.
En tout cas, on est très heureux de vous recevoir aussi, ce matin sur France Musique pour parler de musique. D'abord parce que vous avez une riche actualité, vous enchaînez les concerts en ce moment.
Toujours. J'ai jamais arrêté les tournées.
Ça ne s'arrête pas, voilà, il y a quasiment toutes les semaines.
C'est vrai, j'ai deux spectacles, donc le spectacle Groove avec beaucoup de musiciens dont on parlera peut-être, et j'ai un autre spectacle parallèlement à ça qui est un piano voix avec Jean-Luc D'Angelo, et ça maintenant ça fait 8 ans qu'on fait ce piano voix.
Mais ça ne s'arrête pas, ça veut dire que vous y prenez du plaisir.
Ah bah ça, je me suis programmé pour ça. Vous savez, je vous parlais des années 60, du Golf Draw, des premières fois où je suis monté sur scène pour faire du rock'n'roll avec des groupes. Je me suis dit, cette chose-là, ce plaisir physique que j'ai à faire de la musique, cette espèce d'exaltation, cet enthousiasme qui m'habitait, qui me portait, je me suis dit, ça, ce truc-là, je ne veux pas le perdre. Et je crois que je suis vraiment, vous savez, je me suis mis un programme comme ça, je crois qu'on peut se programmer. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je monte sur une scène et que j'ai 18 ans, donc je ne me lasse pas, parce que ça ce serait terrible de se lasser.
Et puis on va se donner le plaisir, évidemment, au fil de cette émission, d'écouter, de réécouter certaines chansons, des grands tubes, d'autres un peu moins grands, mais que vous aimez beaucoup aussi. J'ai choisi pour commencer les Fourmis Rouges.
Il n'y aura plus sur la terre que du beurre fondu, avec le dernier soupir du dernier disparu. Dernier boom de la dernière guerre, dernière ville sous la poussière et dernier espoir perdu. Ce chemin vert sous les arbustes est protégé par les premiers soupirs des tout premiers baisers. Premier mot de la première heure, première minute d'un bonheur, premier serment partagé. Je te rappelle, on s'était couché sur un millier de fourmis rouges. Aucun de nous deux n'a bougé. Les fourmis rouges, est-ce que quelque chose a changé? Couchons-nous sur les fourmis rouges pour voir si l'amour est resté. Sur les fourmis rouges. Tu n'auras jamais peur du vent qui souffle ici. Et pour les scorpions, te fais pas de soucis. Les mauvais chagrins d'hier, les orties dans les fougères. Quand on s'aime, il nous aime aussi. Ce chemin vert sous les arbustes nous connaît bien. De nos tout premiers rires, c'est le premier témoin. Refuge de la dernière heure et dernière tâche de bonheur au premier signe du destin. Tu te rappelles, on s'était couché sur un millier de fourmis rouges. Aucun de nous deux n'a bougé. Est-ce que quelque chose a changé? Couchons-nous sur les fourmis rouges pour voir si l'amour est resté et voir si l'un de nous debout couché sur les fourmis rouges. Est-ce que quelque chose a changé? Couchons-nous sur les fourmis rouges. L'amour est resté et voir si l'un de nous debout est couché sur les fourmis rouges.
Michel Jonas, entre les premières fois où vous écoutiez Ray Charles et cet enregistrement de 1981, vous avez quand même bien progressé au
J'ai
piano.
J'ai un petit peu progressé. Voilà, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Vous vous accompagnez vous-même là,
oui,
et vous êtes avec des très bons musiciens de jazz, on peut dire pour
très
le coup.
Très bons musiciens, oui, des Ciccarelli, Sylvain Marc, oui, très bons musiciens. J'aime bien cette chanson parce que, en fait, les artistes évoquent souvent l'histoire d'amour entre le public et nous. Voyez, la fidélité. Et pour moi, cette histoire-là d'amour qui doit exister, elle passe forcément par la scène. C'est le but pour moi, la scène. Et cette chanson n'a pas eu de succès radio, médiatique. On l'entendait pas à la radio. Je la chantais pas à la télévision. Mais par contre, les gens la connaissent. Ouais. Et c'est une chanson qui a été connue grâce à la scène, dont je ne me lasse pas.
Voilà, parce qu'elle est dépouillée. Vous êtes en trio, en quatuor, là, tout petit groupe.
On le fait toujours comme ça aujourd'hui, même avec la formation d'aujourd'hui qui est plus importante. C'est toujours quelque chose de très dépouillé, piano, basse, batterie.
Mais j'ai quand même eu l'impression qu'à une époque, et notamment d'ailleurs dans cet album Nouvelle Vie et dans ceux qui ont suivi, vous aviez quand même aussi un goût des beaux produits de studio très élaborés, avec beaucoup d'instruments, un arrangeur, etc. Vous y êtes livré parfois aussi, non ?
Oui, je me suis livré, mais en fait, moi, mon but, ça a toujours été que tout soit au service de
du
concert. Mais avant le concert, il y a les disques qui nourrissent le répertoire. Et pour les albums, j'ai toujours eu cette obsession que les arrangements doivent être au service de la chanson et au service des mots. Ça peut être très dépouillé, mais il peut y avoir effectivement une section de cuivre, il peut y avoir des choristes, etc. Mais c'est toujours au service de la chanson. Et c'est ce que je demande toujours aux musiciens, et je peux m'adresser évidemment, vous voyez ce dernier album dont on parlera peut-être,
bien sûr,
La Douche, le Rhône, l'Endurance, a été arrangé par Jean-Yves D'Angelo et Manu Katché. J'ai eu des albums qui ont été arrangés par Gabriel Yared.
Voilà, c'est quand même des pointures,
Des pointures, et je fais confiance, et je sais que ces gens-là ne font pas des arrangements pour se mettre en valeur,
oui,
et pour qu'on puisse dire « Ah, dis donc, quel bel arrangement !» Quel intérêt de dire quel bel arrangement ? On s'en fout de dire ça, vous voyez ? C'est comme un comédien qui joue quelque chose et on dirait « Oh là là, quel comédien !» Non, on s'en fout, c'est pas ça qu'on doit dire.
Parce que la pièce.
Vous voyez, c'est la pièce, c'est le film et c'est la chanson.
Alors en tout cas, vous nous disiez que vous aviez appris le piano un peu sur le tas.
Ah, tout seul, oui.
Pour autant, Michel Jonas, vous avez quand même eu dans votre famille une histoire musicale assez lointaine, notamment remontant à votre grand-père, oui, Abraham,
oui,
qui, sauf erreur, a rencontré votre grand-mère en chantant de l'opérette.
Ah non, là vous confondez. Enfin, c'est pas de votre faute.
Pardon.
En fait, du côté de ma mère, donc Abraham, mon grand-père...
Auquel vous avez consacré un spectacle. Okay,
j'ai écrit un spectacle, ouais, racontant son histoire.
Et qui est mort tragiquement, évidemment,
qui est mort tragiquement,
à Auschwitz.
Et c'est pour ça, c'est pour ça que je me disais que c'était très symbolique de l'histoire du peuple juif. Et cet homme, paraît-il, d'après ma mère, avait une très belle voix. Il chantait, il était chazan, vous savez, c'est-à-dire cantor, qui chantait dans les, ouais, synagogues. Et ma mère me disait toujours, elle venait me voir, elle me disait, Michel, tu chantes bien, mais encore pas aussi bien que ton grand-père, pas encore. C'était le challenge pour moi. Et donc, paraît-il que les gens venaient de loin pour écouter mon grand-père qui chantait les chants sacrés dans les synagogues. Ça, c'est du côté de ma mère. Du côté de mon père, mes grands-parents, que eux, j'ai connus, parce qu'eux sont partis de Hongrie, ils n'ont pas été déportés.
Mais ils sont de la même origine, donc.
Oui, ils sont hongrois. Alors, mon grand-père et ma grand-mère, donc parents de mon père, chantaient l'opérette et se sont rencontrés,
voilà,
effectivement,
ça
sur une scène de l'opérette à Budapest.
Vous savez pas qu'est-ce qu'ils chantaient ? Non.
Je ne sais pas. C'était des opérettes hongroises, certainement.
Mais oui, il y en a des très jolies.
Oui, certainement.
Mais alors, comme je savais pas laquelle c'était, du coup, oui, j'ai pris plutôt une valse hongroise dans le style tzigane des orchestres de l'époque. Rogi Reti et son orchestre hongrois dans les années 30. Voilà une atmosphère musicale, en tout cas, que vos parents et grands-parents ont dû connaître d'assez près.
Et que j'ai
connu. Jonas, vous-même, oui.
Et que j'ai connu, puisque c'est la première musique que j'ai entendue dans ma vie, puisque c'était les disques qui finissaient.
Ah oui.
Chez mes parents.
Il n'y avait pas ton disque,
mais il y avait la radio. Et mes parents adoraient la radio, adoraient la chanson française. Et on écoutait ça. Mais quand on allait chez mes grands-parents, qui étaient à côté, tout ça se passait à Drancy, ça finissait forcément par le tourne-disque qu'on met sur la table et les disques hongrois ou les disques yiddish, etc. Donc cette musique-là a été vraiment une des premières musiques que j'ai entendues. Un verso musical. Et puis très, très important pour moi, parce que c'est là que j'ai pris conscience de la puissance de la musique, de ce que ça pouvait déclencher, quoi, puisque je voyais, quand ils écoutaient ces chansons-là, qui leur rappelaient donc leur pays d'origine, je voyais des choses se transformer sur leur visage, vous voyez, ou des yeux qui s'humidifiaient, etc. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est dingue, ça a une puissance, cette chose-là.
Et vos parents, c'est plutôt Édith Piaf,
la chanson française
à laquelle vous avez rendu hommage.
Georges Hulmer,
d'ailleurs,
ça. Et d'ailleurs, mon père, pour parler d'Édith Piaf, effectivement, je crois que c'est le premier spectacle que j'ai vu dans ma vie. Il commence à y avoir moins de monde maintenant qui ont vu Piaf sur scène. C'est une question que je pose très souvent sur scène. Qui a vu Piaf sur scène? Et quand il y a quelqu'un qui me dit, moi, je suis vraiment content. Et c'est vrai qu'un jour, il m'a pris par la main, mon père, en me disant, écoute, il faut que tu viennes avec moi voir quelqu'un. Et on a été voir Piaf, et ça a été incroyable pour moi, parce que ça a été une force. Bien sûr, on voit des films, il y a des télés, machin. Mais cette petite bonne femme, avec sa petite robe noire, toute frêle, toute fragile, et cette voix qui remplissait la salle, c'est un truc, une émotion, si vous voulez, très forte, et qui me conforte dans l'idée que la musique, elle bouleverse.
Alors ce petit enfant de Piaf et de la musique tzigane découvrait Charles et il se met à faire du rock.
Oui, c'est vrai.
C'est générationnel aussi. Il y avait on faisait des groupes.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé ma carrière à une période bénie pour commencer une carrière. C'est-à-dire, c'était donc les années 60 où il y avait cette très grande tradition de la chanson française, Piaf, Brel, Brassens, Ferré, Montand, Aznavour, etc. Donc, l'importance de raconter des histoires en chanson, de la poésie en chanson, d'exprimer des émotions et des sentiments, ok. Et ça, on avait tous un profond respect pour ça. Moi, je l'avais, en tout cas, parce que j'avais été nourri avec ça.
Mais enfin, votre premier groupe avait déjà un nom anglais, Kingset.
Oui, le Kingset. Mais moi, ado, ma musique, le présent, c'était le rock'n'roll. C'était d'un seul coup un son de batterie, de basse, de guitare électrique, etc. C'était tout ça symbolisé par cet endroit qui s'appelait le Golf Drouot, tenu par Henri Leproux à Richelieu-Drouot, où tous les groupes se produisaient. Il y avait le tremplin du rock le vendredi soir. Et puis, on écoutait du rock'n'roll le samedi, le dimanche, etc. Et c'est cette musique-là qui m'a donné envie d'en faire, effectivement.
Les choses étaient peut-être plus faciles aussi pour entrer dans le métier, parce que finalement, vous fondez un groupe avec votre ami, je crois, Alain Goldstein. Et assez vite, vous avez enregistré un disque quand même. Pas si vite que ça, sans doute.
Non,
pour vous, à l'époque, ça vous a paru très long.
Pas aussi vite que ça.
En 66, quand même, vous êtes encore tout jeune.
Oui, parce que justement, le père d'Alain Goldstein, Georges Goldstein, avait dit « Oh, je connais Lucien Maurice ». Lucien Maurice était le directeur.
Le grand homme de la musique à l'époque, à Europe 1.
À l'époque, à Europe 1 et la maison de disques AZ. Il m'organise un rendez-vous, et puis voilà, et on a enregistré donc le premier 45 tours avec ce groupe, le Kingset, qu'on avait créé avec Alain Goldstein, et c'était en 67. Voilà.
67, avec une 67. Chanson qu'on va écouter, qui a pas mal marché.
Elle a bien marché, on l'entendait beaucoup à la radio, c'est vrai.
Pression zéro au manomètre à plus de 1000 kilomètres à l'heure est arrivé un être. Plus simple.
Votre première chanson,
oui.
Michel Jonas, avec votre voix qui est assez différente de celle d'aujourd'hui.
Bah, j'avais 20 ans. La voix, elle change avec le temps. C'était un texte de Clarisse Charbonnier. C'était la musique, effectivement, d'Alain Goldstein. Et c'était assez intéressant, cette histoire d'amour entre une extraterrestre et un terrestre. C'était marrant. J'aimais bien cette chose un peu particulière.
Voilà, donc c'était le groupe, hein,
c'était le nom du
groupe King Set. Alors, bizarrement, King Set, c'est devenu votre pseudonyme pour votre premier disque solo. Vous
très
êtes
spécial.
Devenu Michel King Set.
Oui, c'est ça, très spécial. Bah, faut du temps, des fois, hein, pour comprendre les choses.
C'est le truc des maisons de disques aussi.
Oui, c'est ça.
Vous avez trouvé un nom à consonance anglaise, peut-être.
Non, je crois pas que c'était ça. Je crois même que c'était un choix à moi en me disant, ah mince, le King Set, alors le groupe s'étant dissous. Je me disais, bon, moi, je veux continuer tout seul. Mais comme le groupe avait été un petit peu connu, je voulais pas perdre le nom. Vous voyez, c'était ridicule.
Donc à ce moment-là, c'était clair. Maintenant, vous alliez devenir chanteur.
Oui. Ah oui, ça, c'était clair. Mais pas au tout début. Au début, Alain, il m'avait appelé en me disant, écoute, je fais un groupe et puis on n'a pas de chanteur. Tu veux chanter? J'ai dit, ben oui, pourquoi pas. Voilà, ça a commencé comme ça. Hein. En fait, avant le King Set, je faisais partie d'un groupe, les Skylarks. Vous savez, à cette époque-là, dans les années 60, il y avait un groupe qui se créait par palier de HLM. Hein. Donc, ben oui, Kenty et les Skylarks. C'est là que j'ai appris à ce que c'était qu'un accord, quoi, hein, les trois notes. Ensuite, j'ai accompagné Vigon, un chanteur qui chante toujours aujourd'hui, d'ailleurs, Vigon et l'Elements, on a fait un groupe avec Alain, et il y a eu effectivement le King Set. Et quand il s'est dissous, eh bien oui, je me suis dit, je continue.
Donc vous alliez plus vers le rock que vers la variété.
Bien sûr.
Donc vous ne faisiez pas les cabarets comme faisaient les chanteurs à texte.
Ah non. Non.
Le quartier Saint-Michel ou dans le quartier latin, vous n'avez jamais écumé comme ça les cabarets.
Non, mais les clubs, oui.
Les clubs, ouais,
Un petit peu, parce que mon obsession, qui a duré longtemps, et elle est peut-être toujours présente, c'est de faire un lien. Je me disais, c'est pas incompatible ces deux choses-là, ces deux courants musicaux, c'est-à-dire l'importance du texte, la tradition de la chanson française où les mots ont de l'importance, et en même temps le groove qui peut être au service des mots et au service de l'émotion, au service des sentiments. J'ai toujours essayé de faire ce lien-là, parce qu'à l'époque, quand les groupes se créaient, vous savez, ils se disaient que la langue française n'était pas du tout une langue adaptée pour
rock,
le jazz,
vrai,
pour le rock,
souvent,
pour le blues. Faux, c'est une langue qui swing vraiment.
Enfin, vous êtes allé, on peut dire, un peu à peu, quand même, un peu vers la chanson, au sens un peu plus traditionnel du terme, en participant au concours de la Rose d'Or, à Antibes, par exemple, avec La Rencontre.
Ben oui, il faut du temps, vous savez, pour se trouver vraiment, quoi. Puis c'est la scène, hein, la vraie expérience.
Oui.
Et puis, il y avait une clé que je savais très importante, c'était que je devienne auteur-compositeur. Or, je suis devenu auteur-compositeur seulement à partir du troisième album.
Entre-temps, il y a quand même le premier grand tube. Super Nana.
74.
Avec Jean-Claude Vanier.
Jean-Claude Vanier.
Que vous aviez rencontré par hasard, comme ça?
Ben, en fait, je l'ai connu à l'époque où je confiais mes chansons à des arrangeurs. Il était arrangeur, hein, Jean-Claude.
Voilà,
il est toujours, d'ailleurs.
Il est toujours un grand arrangeur.
Un musicien génial. Et donc, c'est comme ça que je l'ai connu. Et puis, à un moment donné, il a eu envie d'écrire. Et il m'a proposé cette chanson-là, qui est une chanson de Super Nana. Je la chante depuis sa naissance, c'est-à-dire depuis 74. Hein,
ah oui.
À chaque spectacle.
Ah oui.
Sauf un spectacle que j'avais fait qui s'appelait La fabuleuse histoire de Mr. Swing, qui était un spectacle de chansons inédites. Mais Super Nana, je la chante encore aujourd'hui, que ce soit en piano-voix ou avec le spectacle groove.
Donc, vous m'en voudrez pas si je passe un ou deux succès.
Il n'y a pas de problème.
Connu.
Non, je renie pas les succès.
J'ai choisi celui d'après, justement pour montrer, là vous êtes passé vraiment dans la chanson avec Les Vacances au bord de la mer.
Oui.
Là, on est très loin du rock.
Ça,
là.
C'était le deuxième. Oui, c'était le deuxième
75.
Album. Je vous dis, c'est la clé a été à partir du troisième album seulement.
Ouais.
Et ça, c'était un texte de. C'est pas moi qui ai écrit.
C'est pas votre texte.
J'ai écrit
absolument.
La musique.
C'est Pierre Grosch.
C'est Pierre Grosch qui a écrit la musique.
On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention. Quand on avait payé le... le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant. Et on regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt, sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. Et quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée aux îles. Sauf quand on pouvait déjà plus, alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, on avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même beau.
Étonnez-moi Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Michel Jonas en 1975, dans cette chanson qu'on aime tous parce qu'elle nous raconte tous quelque chose. Vous savez bien raconter des histoires, hein, Michel Jonas.
Oui, j'aime bien raconter des histoires, c'est vrai. Et puis cette histoire-là, même si c'est un texte de Pierre Gros, c'est vraiment ce que moi j'ai vécu
vous
avec ma famille.
Vous avez eu des vacances sur la mer, c'était
ah
où?
Ah bah oui, ah bah c'était à Cannes. Les îles dont parle la chanson, c'était les îles de Lérins.
Tout ça, c'est vrai. C'était donc en 1975, c'est votre deuxième album solo. Oui. Et donc vous nous le disiez, c'est à partir du troisième en 77 qui s'appelle Du blues. Avant le chanteur de blues. Le mot blues est arrivé donc assez vite dans vos titres importants.
C'était vrai, parce que ça m'a nourri. Et puis...
Parce qu'on a parlé, du rock'n'roll, du rhythm and blues, de la soul, mais le blues pur, vous l'écoutez beaucoup.
Si vous voulez, c'est le rock'n'roll qui m'a donné envie d'en faire. Mais quand j'ai écouté Ray Charles, qu'est-ce que c'était Ray Charles? C'était du jazz, c'était du blues, c'était du rhythm and blues. Il a amené une pierre très particulière à la musique. Et ça m'a donné envie aussi de comprendre et de découvrir les racines de cette musique-là. Mais pour moi, les racines, c'était le blues. Donc, j'ai écouté Muddy Waters, T-Bone Walker, Johnny Hooker, tous les grands bluesmen, quoi.
Alors, j'ai vu, puisque à ce moment-là, vous devenez vraiment pleinement auteur-compositeur, que contrairement, c'est bizarre d'ailleurs, les habitudes dans le monde de la chanson, dans le monde de la musique classique, par exemple, le musicien part toujours d'un texte et il écrit la musique après. C'est ce que vous faites aussi. Oui. Alors que souvent, dans le monde de la musique, c'est on écrit la musique puis on met un texte dessus.
Oui, ça c'est très particulier parce que je me suis rendu compte que ma façon de travailler qui me paraît tellement logique, puisque pour moi, c'est le texte qui va faire naître la musique. Le texte contient en lui-même sa propre musique. Et quand je dis aux gens que moi, c'est toujours comme ça que j'ai travaillé, et eux font le contraire et sont même étonnés de ma méthode. Et moi, c'est le contraire qui m'étonne parce que je serais incapable de faire une musique ça veut, vous voyez, d'une façon abstraite. Alors, si c'est pour un film, par exemple, comme fait si bien Gabriel Yared, qui a fait des musiques de films magnifiques. Oui, là, il y a un support, il y a des images, il y a une histoire qui est racontée. Mais trouver comme ça une mélodie qui se... pour moi, c'est très, très abstrait. Ça tient pas de beaucoup.
Les textes, vous les travaillez longtemps?
Oh là, je peux les travailler très longtemps. Je peux les travailler sur des années.
Ah oui, une même chanson par petits bouts, en la changeant.
Oui, j'en ai des valises entières et à chaque fois je dis ça, parce que c'est pas une image. J'ai vraiment des valises de... J'écris sur des cahiers d'écolier, moi. Donc, c'est vrai que j'en remplis 20, 30 à chaque album. Donc, quand je me remets à préparer un autre album, eh bien, je ressors certains de ces cahiers et où je me rends compte que, tiens, pourquoi je me suis arrêté là? Ah ben, il manque un couplet. Ou tiens, il y a un début de deux phrases qui me semble bien. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Mais à ce stade-là, vous n'avez pas d'idée de la mélodie.
En fait, j'ai pas d'idée de la mélodie, mais quand j'écris mes textes, je chante en même temps.
Ah, oui.
Donc, même si j'ai pas la mélodie elle-même, des fois je l'ai. Mais peut-être que je vais la perdre en cours de route, mais ce que je ne perds jamais, c'est la pulsion rythmique et la façon dont, dont c'est agencé rythmiquement les phrases.
Vous le slammez, quoi.
Ça, voilà, exactement.
Alors, vous avez cité son nom, et il était présent d'ailleurs dans ce troisième album, je crois, de ce grand musicien que j'adore, Gabriel Yared.
Oui.
Vous êtes rencontré comment?
Je ne sais pas. Je
en tout cas,
on a fait beaucoup de choses ensemble.
Beaucoup, beaucoup.
Il a fait même un album comme chanteur, Gabriel Yared. Il m'avait demandé d'écrire des textes pour Françoise Hardy dont il s'occupait. J'avais écrit avec lui, donc certaines chansons de Françoise, comme par exemple J'écoute de la musique soul.
On va l'écouter. Parce
Ah oui.
Oh, j'aime
elle est sympa,
moi,
celle-là.
Ça vous ennuie, non?
Ah, mais moi j'aime bien. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté.
C'est comme ça que vous êtes devenu, auteur de Françoise Hardy.
Voilà, ouais, voilà c'est par l'intermédiaire de Gabriel Yared.
Et vous avez contribué d'ailleurs même à son retour sur scène. Enfin, il y a plein d'étapes dans une carrière, mais là, ça a été un moment important, je pense.
Oui, ça a été c'était une étape importante, oui. Je crois qu'elle a bien aimé faire ça. Et Gabriel a joué un rôle important pour moi. Il a fait des arrangements sur plusieurs chansons, sur l'album Univers Luni. Il s'est occupé, par exemple, des cordes de la chanson « Je veux pas que tu t'en ailles ». Dès le troisième album, j'ai fait appel à lui, etc. Il m'a fait comprendre beaucoup de choses dans la musique. C'est et on a passé vraiment du bon temps avec lui.
Vous avez de l'admiration pour son
métier.
Ah,
j'ai de l'admiration. J'ai l'admiration et un lien vraiment de tendresse pour cet homme-là et une admiration pour le grand musicien qu'il est. Oui.
Françoise Hardy, dont j'écoute de la musique soul, musique de Gabriel Yared, parole de mon invité Michel Jonas. C'est une belle chanson.
Ah ouais, mais ça me fait des souvenirs. Et puis je sais pas si vous avez remarqué la voix de l'homme qui chante,
qui est Arthur Sims,
avec qui j'ai beaucoup travaillé sur scène et à la boîte de jazz, et puis etc. Donc ouais, c'est un beau souvenir ça.
Alors en tout cas, je ne sais pas si ça découle aussi de tout ce qu'on a dit, de votre amour justement de cette musique soul, blues et autres. C'est que c'est assez frappant parce que fin des années 70, début des années 80, pour beaucoup de chanteurs de variété française, c'est un tournant difficile parce qu'elle arrivait justement du funk, du disco, etc. Et pour vous, c'est au contraire le moment où tout s'ouvre très grand, où les tubes vont s'enchaîner. Le début des années 80, c'est vraiment les années Jonas, quoi.
Oui, peut-être, c'est une belle période, mais bon, j'ai suivi ma route, quoi. Vous savez, moi, je me...
Mais elle a coïncidé, c'est ce qui arrive dans l'histoire des gens. Il y a un moment où votre route coïncide avec le goût du moment.
Ah, oui, ça, je ne contrôle pas la carrière d'une chanson. Moi, je me laisse guider par mon désir, par le plaisir que j'ai d'écrire, de composer, de faire, de chanter, etc. Voilà, c'est tout.
Mais en tout cas, ça va se manifester dans des albums avec des très grands succès, comme La Nouvelle Vie, justement, en 1981, dans lequel figure Joueur de Blues, et puis ensuite d'autres chansons, La Boîte de Jazz, tout d'un coup, tout le monde connaît Fredon, Michel Jonas. Ben, c'est agréable
c'est
d'ailleurs.
Oui, mais c'est certainement le résultat de mes différentes nourritures musicales, à savoir effectivement, dont on parle depuis le début, le rock'n'roll et le blues, mais mes racines profondes, c'est-à-dire l'amour de la chanson française transmis par mes parents et cette fameuse musique tzigane hongroise que j'ai écoutée, etc. C'était là, j'avais même pas besoin d'y penser, si vous voulez. Voyez, moi je suis fier de ça, je suis fier d'avoir pu transmettre ça, parce qu'en fait... Souvent, les artistes disent « c'est cette musique-là qui m'a influencé » ou « c'est cette chanteuse » ou « ce chanteur ». Mais en fait, c'est pas tellement dans la forme de la musique, c'est pas ça qui m'a tellement influencé. C'est l'état dans lequel j'étais intérieurement, psychologiquement, spirituellement presque. Et quand j'écoutais la musique tzigane hongroise, quand j'écoutais Ray Charles, quand j'ai écouté Piaf, quand j'ai écouté Brassens, ça me mettait dans un état particulier intérieur. Et c'est ça la vraie influence qui compte et que j'ai essayé, moi, d'exprimer, bien sûr, à travers mes chansons.
Mais on peut dire aussi qu'à ce moment-là, votre voix s'est vraiment épanouie pleinement, quoi. Il y a, tout d'un coup, c'est la voix de Michel Jonas qui est une voix très, très particulière que tout le monde.
Alors ça, on contrôle pas, la voix, ça, c'est un truc.
Mais
c'est...
là, elle s'affirme pleinement dans sa liberté, dans sa voix.
Oui, c'est vrai. Ben, en fait. Moi, je préfère la voix que j'ai aujourd'hui à celle que j'avais il y a 20 ans, qu'on a entendu tout à l'heure d'ailleurs.
Ah oui, la première de
la toute première, mais même, jeune garçon, même là. après, dans les, au début des années 80, parce que qu'est-ce qui se passe avec le temps? La voix, sa particularité, elle est toujours là, hein, mais elle peut perdre un petit peu dans les hauteurs, dans les aigus, etc. Ouais. Mais par contre, elle s'élargit un peu. Elle prend du médium grave, etc. Et moi, c'est ça que j'aime, parce que ça, c'est la chaleur qu'il n'y a pas quand on a 18 ans ou 20 ans.
Vous avez, parmi ces très grands succès, certaines préférences entre la boîte de jazz, le joueur de blues, Super Nana, etc.
Non, j'ai pas de préférence. J'ai des préférences quand je prépare un spectacle. Ce qui me guide pour préparer le répertoire, c'est qu'est-ce que j'ai envie de chanter. Et j'ai pas forcément envie de chanter les mêmes chansons que j'ai chantées il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans.
D'accord.
Donc voilà, c'est le plaisir que j'ai de chanter les chansons. Super Nana, c'est vrai que j'ai toujours le même plaisir à la chanter, par exemple, au joueur de blues, ou du blues, ou la boîte de jazz. Mais jamais je me dis, il faut que je chante les vacances au bord de la mer, il faut que je chante
voilà,
moi, il
faut ou que je chante la boîte de jazz. On regarde pour la fin les grands tubes.
Oui, mais non, mais le truc de il faut, voyez, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher, on ne peut pas faire plaisir aux gens si on ne se fait pas plaisir à soi-même. C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Hein.
Alors moi, il y en a une de l'époque que j'adore, j'écoutais ça à la radio en sortant du lycée sans doute. Je ne sais pas si vous faites partie de celles qui vous plaisent toujours, mais c'est les Wagonnets.
Ah oui. Ah, j'aime bien les Wagonnets.
J'aime bien même l'idée des Wagonnets, puis la façon dont vous en parlez.
Oui, les Wagonnets, c'est une histoire.
C'est pas un grand tube, mais c'est un tube quand
même. Non, c'est pas un grand tube. Ouais. Mais les gens l'aiment bien. C'est aussi un succès scénique, je dirais, comme les Fourmis Rouges, qui ne passaient pas à la radio, mais que les gens qui viennent me voir connaissent. Les Wagonnets, c'est drôle parce que c'est une histoire qui me ramène à l'enfance, parce que quand on partait de temps en temps en vacances dans les Vosges, un village qui s'appelle Rambervillers, et il y avait un oncle qui tenait une usine. Donc, il vernissait des meubles, vous savez. Donc, c'était assez important. Et il y avait une très grande cour. Et dans cette grande cour, il y avait des wagonnets sur des rails. Et moi, je m'amusais tout le temps à monter sur ces wagonnets et à me dire, tiens, je conduis un train. Vous voyez, il y avait ce truc-là. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça vient de là, cette histoire des wagonnets.
C'est la dernière fois que je dépense pour toi 120 centimes. Toi j'y ajoutais le prix du papier, ta nicotine. Une cartouche entière pour calmer mes nerfs avant d'écrire. Une cartouche qui se fume, une lance-cils aux plumes pour qu'il transpire. Mes sueurs profondes dans mon cœur la sonde pour qu'il diffuse ses sentiments vagues. Marqué par la bague du doigt qui t'accuse. Bague de fiançailles posée sur les rails, coupée net en deux par les roues des wagonnets qu'on pousse l'un vers l'autre, chargé rempli. Les wagonnets qui nous éloignent l'un de l'autre, rêveurs du destin qui choisit. Les wagonnets qu'on pousse, chargés remplis. Les wagonnets, c'est l'aiguilleur qui tousse, c'est l'heure du destin qui choisit. Timbre obitéré, ma langue est restée collée dessus. dans de l'eau des taches, ce lambeau qui cache un baiser perdu. Le papier qui brûle, geste ridicule, j'ai renversé sur l'encre d'étude, bleu des mers du sud, le cendrier. Et pas de suite possible pour cet impossible, missive confuse, ces sentiments vagues, marqués par la vague du doigt qui t'accuse. Vague de fiançailles posée sur les rails, coupée net en deux par les roues des wagonnets qu'on pousse l'un vers l'autre, chargé rempli. Les wagonnets qui nous éloignent l'un de l'autre, erreur du destin qui choisit. Les wagonnets qu'on pousse, chargés remplis. Les wagonnets, c'est l'aiguilleur qui tousse, erreur du destin qui choisit. Les wagonnets, les wagonnets. Les wagonnets, les wagonnets. Les doux des wagonnets qu'on pousse l'un vers l'autre, chargés remplis. Les wagonnets, les wagonnets.
Les wagonnets, bah, elle m'enchante, Michel Jonas, avec des arrangements justement
de Gabriel Yared. Tout l'album.
Les années 80 commencent, un album de 1979.
Hein, voilà, c'était. Toutes les chansons ont été arrangées par Gabriel Yared.
Bien qu'on soit sur France Musique, il faut quand même qu'on en parle un peu parce que c'est très important dans votre vie. C'est que justement, à ce même moment, 79, début des années 80, où vous devenez un chanteur si populaire, vous faites en même temps vos débuts à l'image, au cinéma, ce qui, ça, pour le coup, n'était pas un projet de toujours dans votre vie. Ou vous, je me trompe?
Ben, vous trompez, mais vous pouvez pas savoir la réalité. La réalité, c'est que avant de commencer à faire de la musique, j'ai pris des cours d'art dramatique. Donc, c'était mon premier truc. C'était dans une maison de jeunes de la Porte de Vanves, avec un mec qui s'appelait Guy Cayatte, qui donnait des cours. C'est ma sœur qui m'avait amené là-bas. Et en fait, moi, j'aurais toujours voulu parce que ça s'est pas passé exactement comme ça. Quand la musique m'a pris, elle m'a embarqué, et puis voilà.
Il n'y avait plus rien eu d'autre.
Voilà, il n'y a plus rien eu d'autre pendant un certain temps. Mais moi, j'aurais voulu, depuis le début, pouvoir mener ces deux formes d'expression et ces deux carrières parallèlement.
Ah oui.
Oui, je voulais toujours. Ce que je fais aujourd'hui, j'ai peut-être une petite frustration par rapport à mon travail de comédien.
Mais vous êtes présent souvent, vous faites même des petits rôles, des moyens rôles, des grands rôles.
Voilà,
vous aimez bien, on sent que vous aimez ça.
Je le suis un petit peu présent, et puis c'est certainement pour ça que j'ai eu envie aussi de m'écrire une pièce de théâtre qui s'appelle Abraham, et puis après, La vie est une tarte aux pommes. Et c'est pour ça aussi peut-être que de temps en temps, je faisais le clown entre deux chansons, pour laisser passer mon envie de jouer la comédie, quoi, voilà, et puis de dire des textes. Non, ça, c'est pas d'un seul coup comme ça, tiens, je vais jouer la comédie. Non, c'est même quelque chose qui, si vous voulez, pour moi, il n'y a pas une très grosse différence. Il ne faut pas oublier, dans les premiers spectacles que j'ai vus, il y avait Brel. Mais Brel, c'était quoi? C'était un chanteur, c'était un comédien.
Ah bah
pour
oui,
moi, les deux étaient...
Comédien, ouais.
Oui, mais même sur scène, vous voyez, bien sûr, qu'on a vu après que c'était un bon comédien cinéma, et un réalisateur aussi. Mais même sur scène, quand il interprétait les chansons, il interprétait. On voyait le « Non, Jeff, t'es pas tout seul », etc. À chaque fois, il décrivait « Je vous ai apporté des bonbons ». À chaque fois, il incarnait. On raconte pas sa vie propre quand on chante ses chansons. Donc il incarnait des personnages. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas une énorme distance entre le fait de jouer la comédie et de chanter.
Ce que vous avez fait d'ailleurs aussi dans l'histoire de Mr. Swing,
qui
est une forme d'opéra.
Une forme de comédie musicale à un seul personnage.
Des textes de liaison. Vous aimez ça? Vous en ferez de la comédie musicale?
Je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, mais c'est vrai que j'aime bien ça.
Dans vos rôles de cinéma, il y en a dont vous êtes vraiment plus particulièrement fier.
Par exemple, il y a eu un film qui n'a absolument pas marché et que j'ai adoré de Franck Cassanti qui s'appelait Le Testament du poète juif assassiné.
Oui, où là,
le rôle principal. C'était pas le premier film.
Des premiers.
Un des premiers, qui était tiré donc du roman d'Elie Wiesel, Le Testament du poète juif assassiné, où j'avais ce rôle-là. Ça, c'est vraiment, ça a été ça m'avait bouleversé, ça.
Et vous feriez bien des premiers rôles, donc.
Non, c'est pas le problème. J'adore faire deux jours. Vous savez, c'est plus difficile. Vous arrivez arrivé sur un tournage, par exemple, où on vous a donné 2 jours. Ça m'arrive très souvent. Et ben, c'est pas si simple. Parce que les mecs, tout le monde se connaît. Vous voyez, c'est important quand on tourne le lien qui se crée entre les comédiens, etc. Et ben, c'est pas si simple. Hein. Alors que quand vous êtes là, si vous avez un rôle important, bon, voilà, vous accueillez les nouveaux avec plaisir, quoi.
J'avais envie d'écouter Groove Baby Groove de 1992. On avance un peu comme ça dans le temps. Ah bah, et puis, c'était l'occasion de dire un mot aussi de quelqu'un d'important aussi après Gabriel Hierret, c'est Jean-Yves D'Angelo.
Jean-Yves D'Angelo, on l'a pratiquement...
Rappelez-nous pour les auditeurs qui
alors, Jean-Yves D'Angelo est un pianiste avec qui je travaille. Il a travaillé avec beaucoup d'autres gens. Hein. Ouais. Mais on a commencé notre carrière ensemble avec Jean-Yves D'Angelo et avec Manu Katché qui maintenant joue de la batterie avec nous. Donc on a commencé nos carrières respectives ensemble. Et un jour me vient l'envie de faire un piano-voix. C'est-à-dire, vous savez, une chanson, c'est quoi ? Ben, c'est un texte, c'est une mélodie, c'est des accords, un piano et une voix. Et j'avais envie de faire ça. Et pour moi, la seule personne avec qui j'avais envie de faire ce projet-là, c'était lui. Et je lui en ai parlé. Et ça fait maintenant 8 ans qu'on fait ce piano-voix. On change, bien sûr. Hein. Ouais. On appelle ça des saisons. Donc, on en est à la saison 4. C'est-à-dire qu'on change le répertoire. Mais on se connaît vraiment bien. Quoi.
Vous serez ensemble au Sable d'Olonne, d'ailleurs ?
On est ensemble. Dimanche, c'est un piano-voix. Voilà. Le Sable d'Olonne, c'est un piano-voix.
Et Groove Baby Groove ?
Groove Baby Groove, ça c'était le disque Où est la source que nous avons enregistré avec des très grands musiciens d'ailleurs qui nous ont suivis après en tournée, comme Steve Gadd à la batterie, comme Abraham Laboriel à la basse et grands musiciens américains. Et Groove Baby Groove est la dernière chanson que j'ai enregistrée c'était à Los Angeles donc. Et je me dis tiens, j'ai encore une journée d'enregistrement, les musiciens sont là. Et j'ai écrit, effectivement l'histoire raconte ça. C'est-à-dire c'est la veille, j'ai écrit cette chanson, j'avais un petit piano électrique dans ma chambre d'hôtel. Et voilà comment ça s'est passé.
Comme elle dit ici, let's take a ride. Je vais me balader, faire des courses sur Riverside, California, LA. Les mots qui s'échappent de ma bouche, c'est l'anglais. Enfin, I wanna go to Mama Gouche, that way. Rendez-vous 11h au studio, tout le monde est à l'heure. Hey, how do you do, les gars, hello. C'est encore le French singer. Demain je retourne au pays, demain je fais la valise. C'est le dernier jour aujourd'hui. Mais j'ai pas les mots, j'ai pas les mots, pas les mots, non, les mots, non, les mots, non, aucune importance dans cette circonstance. Blue, baby, blue, je vais m'envoler si ça se trouve, baby, blue, me laissez porter par.
Michel Jonas, et vous avez peut-être eu aussi, comme vos aînés, les yéyés, ce rêve américain dans votre vie, ou pas trop, non?
Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est le rock'n'roll et le blues et le rhythm and blues qui m'ont donné, qui m'ont nourri, je me dis, voilà, je regardais du côté américain. Des gens de ma génération, il y avait aussi ceux qui étaient plus attirés par la musique anglo-saxonne, par les Beatles, par les Stones, etc. Moi, c'était vraiment le rhythm and blues, et je suis fier parce que ce disque-là, moi, c'est des beaux souvenirs. Je sais pas si vous entendez le guitariste. Il passait comme ça dans le studio. Larry Carlton, très grand guitariste. Et je lui ai dit, tu voulais bien venir faire cette séance avec nous? Voilà. Donc il y avait des grandes pointures là dans ce disque-là.
Alors tout récemment, on peut dire, parce que le temps s'étant un peu suspendu pendant 2 ans, en 2019, c'était hier, vous avez sorti un nouveau disque. Oui. C'était c'est le premier depuis quelques années. Hein.
Oui, depuis voilà. quelques années, parce que...
Ça s'appelle La Méouge, le Rhône, la Durance. C'est, un, j'oserais dire, un album assez géographique, ancré oui. dans des lieux, dans la nature, dans l'eau
vrai,
beaucoup
dans
aussi.
L'eau. Hein. Il y a l'eau beaucoup, c'est vrai. Oui. C'est vrai, j'avais une... À l'époque, une, enfin, il y a quelques années, j'avais une petite maison dans un petit village qui s'appelait Éour et qui est dans les Alpes du Sud, qui est au-dessus de Laragne, au-dessus de Gap. Quand j'allais dans cette petite maison là-haut, dans la montagne, je passais toujours par cette vallée de la Méouge et je descendais pour me baigner dans la Méouge. C'était très beau, quoi.
Et cet album, il est arrivé parce que vous, c'était le moment pour vous. Voilà, vous aviez des textes, des chansons de prêtre, et puis tout d'un coup,
non,
vous
c'est pas jamais... ça. C'est que j'ai besoin de certaines circonstances, de certaines conditions pour écrire. Et donc, quand je suis par exemple dans une période où il y a beaucoup de dates de concerts, je ne peux pas écrire. Ah oui. Et là, il y a eu une période qui a été beaucoup plus calme au niveau des concerts. Et là, je me suis dit voilà, là j'ai 3 mois, 4 mois tranquille, et je me suis plongé dans cette aventure. De l'écriture.
Où il est question aussi de notre belle planète, parfois en péril.
Hein, oui, voilà.
Il y a des chansons radieuses, et puis il y a une chanson alors très forte, mais assez sombre à sa façon, La Maison de Retraite.
Ah non, je suis d'accord.
Enfin, je veux dire,
elle n'est pas sombre.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'on aborde rarement le sujet de la vieillesse, de la retraite, etc. Dans la chanson, vous l'abordez de front, là.
Oui, mais c'est pas une chanson. Oui,
c'est une chanson d'amour.
C'est une chanson d'amour. Bien c'est sûr. Pas une chanson sur la retraite, c'est pas une chanson sur la vieillesse du tout. C'est vraiment effectivement une chanson d'amour, l'amour qui n'a pas de limite. Voilà, c'est une chanson. Vous savez, il y avait cette fameuse chanson qui s'appelle Les Vieux que chantait
Brel,
qui m'avait beaucoup,
sûr,
beaucoup
ouais.
Brel,
ouais,
qui m'avait beaucoup touché, parce que c'est vrai que c'est émouvant ça, les histoires d'amour qui durent comme ça longtemps, ces personnes âgées qu'on voit dans la rue. Se tenir par la main. On en voit de moins en moins, remarquez. Peut-être qu'ils n'osent plus sortir. Je ne sais pas. En tout cas, c'est beaucoup plus une chanson sur la force, la puissance de l'amour qui lie deux êtres que sur la vieillesse. Un petit peu, je dis, on ira à le personnage que j'incarne dans cette chanson dit, mais je te jure sur ma tête, la maison de retraite, nous on n'ira jamais, on dormira dehors, on regardera les étoiles, parce que c'est vrai que en fait, pour en avoir visité une ou deux dans des circonstances particulières, c'est un peu triste.
Voilà. Et musicalement, c'est fait comment cette chanson?
Alors ça, c'est très particulier, parce que j'ai donc préparé mes accords, mes harmonies. Il y a pas beaucoup d'accords, hein. Et j'ai branché mon magnétophone et c'est venu, vous voyez, elle n'est pas du tout logique cette chanson. Il n'y a pas de couplet, de refrain, non. Et c'est d'une traite et j'ai chanté le texte, comme ça le texte était, par contre lui, fini à 100%. J'ai fait mes accords, j'ai enregistré et j'ai chanté cette mélodie qui, d'un bout à l'autre.
Trouver ta lettre où tu disais peut-être un jour on sera trop vieux pour s'écrire des poèmes, pour se dire que l'on s'aime, se regarder dans les yeux. Tu parlais de naufrage d'un corps qui n'a plus d'âge et qui s'en va doucement, de la peur de vieillir et d'avoir à subir l'impertinence du temps. De ne plus pouvoir s'aimer si la mémoire s'en va et qu'on ne se reconnaît plus. Et perdre, me disais-tu, le plaisir de me plaire, l'envie de me séduire. Peur de la dépendance et de finir sa vie dans une maison de retraite. De la fin qui commence, de l'esprit qui divague, de ne plus pouvoir un jour rire à mes blagues. Mais tout ça c'est des bêtises, est-ce que tu réalises, on sera jamais trop vieux pour s'écrire des poèmes, pour se dire que l'on s'aime, se regarder dans les yeux. Et je veillerai sur toi et tu veilleras sur moi, ce sera jamais fini. On se dira mon amour jusqu'à la fin des jours et le jour et la nuit. Et leur maison de retraite, ça je te jure sur ma tête, nous on n'ira jamais. dormira dehors, on regardera les étoiles, on vivra libre et digne, on se tiendra par la main comme à nos 18 ans qu'on marchait tous les deux sur des sentiers perdus au début du printemps. Et on pourra toujours raconter des bêtises et dire n'importe quoi. On vivra libre et digne. Et si l'on doit partir un jour après le dernier mot du tout dernier poème, on partira ensemble, tu comprends? On sera jamais trop vieux. Se dire que l'on s'aime, se regarder dans les yeux. On sera jamais trop vieux pour se dire que l'on s'aime, se regarder dans les yeux.
Michel Jonas, émouvant,
oh,
bouleversant, et puis c'est très musicalement très bien fait aussi avec ses cordes.
Ah, Jean-Yves D'Angelo écrit très bien les cordes, c'est un arrangement donc de Manu Katché, Jean-Yves D'Angelo, et Jean-Yves D'Angelo, vraiment je fais toujours appel à lui pour ce genre d'écriture, et il s'est dirigé, hein, il a pris des cours.
Voilà, et c'est donc dans votre dernier album, et c'est aussi dans votre spectacle que vous allez donner à Roubaix en début de semaine, mais aussi le 4 et 5 décembre au Palais des Sports à Paris, avec les mêmes musiciens.
Ben, avec Jean-Yves au piano, Jean-Yves D'Angelo au piano, Manu Katché à la batterie, Jérôme Regard à la basse, Hervé Brault à la guitare, Pierre D'Angelo qui est le frère de Jean-Yves qui joue du sax baryton, Michel Gaucher qui lui aussi était là au tout début de l'aventure qui joue du sax, et puis Eric Mulat qui joue de la trompette, et quelques petites surprises.
Voilà, et un peu de Michel Jonas au clavier.
Bah, pour les fourmis rouges. J'aime bien jouer au piano les fourmis rouges.
Les fourmis rouges.
Voilà.
Voilà. Mais vous, visiblement, aujourd'hui, c'est ça qui conduit toujours votre vie. C'est le plaisir de remonter régulièrement sur scène tout au long de l'année. Ça va continuer. On peut voir d'ailleurs sur le site Michel Jonas, hein, toutes les dates à venir. Il y en a beaucoup.
Oui, il y en a beaucoup, oui. Ben, voilà. C'est ça qui me guide, bien sûr. Parce que je pense que si.
Vous disiez jamais, je vais me retirer maintenant comme un ermite dans la campagne. M'éloigner du monde.
Pas pour l'instant. Je me dis pas ça parce que j'ai toujours le même plaisir, le même bonheur de faire de la musique avec mes potes, quoi.
Voilà, et nous on a toujours le même bonheur à vous écouter.
Merci beaucoup.
Et c'était vraiment très gentil d'être avec nous ce matin sur France Musique.
C'était un plaisir.
Merci Michel Jonas et à bientôt.
À bientôt.
Un peu parti, un peu nage, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervés.
C'est pas un habitué, sûrement pas un amoureux de Dizzy.
L'orchestre s'installe des professionnels.
Come on boy,
et c'est moi qui s'interpelle.
Hey Gus, tu connais Charlie Mingus?
Oh, par cœur, je connais par cœur.
Hey fils, le nom est Davis.
Aussi, le camionnier, j'aime tous les succès de Duke Ellington. Scott Hamilton, Duke Ellington.
Okay.
J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz pour arriver pétrifié jusqu'à la scène. Dans un coin, un orgue m'attire.
Ça y est, je transpire.
Timidité surhumaine. Et si c'était la chance?
Allez, tant pis.
Oui, oui, ça aurait été dommage de s'en priver, hein, de ces grands tubes de Michel Jonas, la boîte de jazz. Michel Jonas, qui était ce matin mon invité. Je vous rappelle le titre de son dernier disque, le Méouge, le Rhône, la Durance, qui est paru récemment et dont vous retrouverez certains des titres dans les prochains concerts de Michel Jonas. Dès demain au Sable d'Olonne, mardi à Roubaix, samedi et dimanche prochain au Palais des Sports à Paris. Toutes les infos figurent sur le site micheljonas.com.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et sur France Musique, c'est votre demi-heure de musique légère. À midi et quart, on va retrouver Serge Laïc qui nous parlera de Maurice André et de ses enregistrements avec les orchestres de divertissement, un genre qu'il adorait, mais auparavant dans le sillage de ces vieux disques tziganes qu'on évoquait avec Michel Jonas et en songeant aussi à la saveur mélancolique de certaines de ses chansons, je vous propose un petit choix de musique langoureuse. Alt Wien, autrement dit le vieux Vienne, sous les doigts du grand Nikita Magaloff, une valse mélancolique et voluptueuse à la fois, ce qui est aussi le cas de la dernière valse, une chanson de Reynaldo Hahn qu'il donnait souvent pendant la guerre avec sa grande amie Ninon Valin, qu'on va retrouver ici puisqu'elle a enregistré cette dernière valse avec chœur et orchestre sous la direction de Marcel Cariven. Thank you. Et c'était en 1946, la merveilleuse Ninon Valin sous la baguette de Marcel Carivène dans cette dernière valse de Reynaldo Hahn sur un poème de Maurice Donnet. Mais la longueur dont je vous parle aujourd'hui, la volupté aussi, on la trouve évidemment aussi dans les musiques d'orchestre, ces musiques qui vous enveloppent avec leurs grandes nappes de cordes, de Wagner à Ravel en passant par Rimsky-Korsakov. Et pour moi, le maître du genre, c'est quand même Richard Strauss dans ses grandes escapades sur les glaciers de la Symphonie des Alpes ou encore dans ce trop peu connu ballet, La Légende de Joseph, créé à Paris en 1914 avec notamment cette danse de la Sulamite. La Légende de Joseph, sublime musique, ici interprétée par la Staatskapelle de Dresde, sous la direction de Giuseppe Sinopoli. Et avant de retrouver Serge Laïc, encore une musique langoureuse, mais alors là, dans le genre plutôt érotique, puisqu'il s'agit de l'excellent Barry White avec sa sheet music, autrement dit, musique de lit. Just let me do it. I know how to use it.
nothing like the news. Oh, she means it. Oh, yeah, I know how to use it. Oh, yeah, girl, just let me prove it. Just let me do it. I know how to use it. Girl, I love that music. She knew that well. I know how to use it. Come here, girl, let me prove it. Ain't nothing like that music. Now don't you use it? Well, yeah, I know how to use it. Oh, yeah, just tell me I can do it. Girl, just let me prove it. I swear I could use it. Girl, I'd love to do it. Well,
des chefs-d'œuvre de Barry White et de son Love Unlimited Orchestra, c'était Sheet Music en 1980, arrangé par Paul Politi. Je sais que d'ailleurs d'éminents musiciens comme le compositeur Guillaume Connaisson partagent mon adoration de cette musique. Mais sur France Musique, nous avons rendez-vous maintenant avec Serge Laïc. Serge.
Bonjour cher Benoît.
Ça vous convient Barry White?
J'adore.
Bon, merci. J'étais sur le
mais
grand
oui.
orchestre quand même,
mais
c'est
oui.
votre passion. Et vous nous parlez aujourd'hui de
Maurice André, qui est né en 1933 et qui fut non seulement un trompettiste de légende dans le domaine classique, tout le monde le sait bien sûr, mais il y a un grand mais, il a abordé aussi le répertoire populaire avec un immense plaisir. C'était un fils d'une famille de mineurs. Eh bien, Maurice André entre au Conservatoire de Paris en 1951, où il obtient un premier prix de trompette, et il s'impose très vite parmi les meilleurs, devenant même trompette solo au concert de l'Orchestre Lamoureux et de l'Orchestre Philharmonique de la RTF à l'époque. En 1957, eh bien, il croise la route du chef d'orchestre-arrangeur Jean Faustin, connu entre autres pour avoir accompagné Léo Ferré quelques années plus tôt, et c'est avec Jean Faustin que Maurice André enregistre quelques pages comme Serenata de Leroy Anderson ou le divertissement d'après le concerto en fa de George Gershwin. Thank you.
Maurice André à ses débuts dans la musique légère. C'était donc en 1958, un disque Odéon avec l'orchestre de Jean Faustin dans cet arrangement de George Gershwin. Serge Lay.
Voilà, alors dans les années 1950, eh bien Maurice André participe en studio à quelques séances de variété, entre autres en 1955 pour Charles Trenet et sa fameuse chanson Route Nationale 7, où on entend bien la trompette de Maurice André, entre autres la trompette Boucher, dans cet extrait de la chanson.
On chante en fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là, qui fait risette, on est heureux, National 7. Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là, qui fait risette, on est heureux, National 7, on est heureux, National 7, on est heureux, National 7.
Qui donc sait que Maurice André joue derrière Charles Trenet dans cette célèbre chanson? Eh bien, Serge Lay qui vient de nous l'apprendre.
Et oui, alors,
c'était en 1955.
Oui, ah oui, c'était en 1955, en effet. Donc, Maurice André n'avait que 22 ans à l'époque. De 1967 à 1978, eh bien, Maurice André sera professeur au Conservatoire de Paris, où il forme de futurs trompettistes renommés, que vous connaissez, Benoît, comme Bernard Soustrot ou Thierry Kans. Parallèlement à son immense carrière classique, avec les plus grands chefs bien sûr, c'est en véritable adepte de la musique champêtre que Maurice André enregistre deux albums avec le groupe des Drilles en Trilles, arrangés et dirigés par André Carrado, et notamment la musique de C'est le Piston, la célèbre chanson de Bourvil. Thank you.
c'est le piston, c'est Maurice André, une chanson donc de Bourvil et d'Étienne Lorrain avec l'orchestre André Carrado en 1965 et un certain rapport avec notre regretté Pierre-Marcel Lombard.
Et oui, puisque c'est lui qui avait produit ce disque et deux autres d'ailleurs de Maurice André à l'époque.
Voilà, l'empereur de la musique récréative. Absolument. Qui a été à ce micro pendant tant d'années.
Et oui. Alors en 1986, sous la direction du réputé Maurice André qui fut du réputé François Robert qui fut l'arrangeur de Jacques Brel, eh bien Maurice André s'était offert une petite gourmandise associée à l'incontournable flûtiste Jean-Pierre Rampal. Les deux solistes interprètent Il court, il court, le furet, avec un ensemble vocal canadien, et François Robert, donc, l'arrangeur, avait gardé un grand souvenir de ces moments passés avec Maurice André et Jean-Pierre Rampal. On écoute François Robert.
C'était un grand bonheur pour moi, parce qu'ils sont talentueux, là, comme l'eau. On était parti de chansons populaires, et entre les chansons qui étaient chantées par la chorale, il y avait des petites variations musicales qui étaient écrites tour à tour, l'une pour la flûte, qui était soit une flûte en sol, soit une flûte en ut, soit un piccolo, et l'autre pour la trompette. Vous savez, Maurice André, quand il vient, il a un wagon de trompette. Alors voilà, on s'est bien amusé avec ces petites variations. Il y avait 16 titres. Maurice André, Pierre Rampal, les petits chanteurs de Saint-Laurent, sous la direction d'Alain Caza, de la chorale, et puis moi j'avais fait les orchestres.
Jean-Pierre Rampal et Maurice André, les deux grandes stars du disque français de l'époque. Ici donc dans il court le furet avec le chœur d'enfants de Saint-Laurent et les arrangements de François Robert. C'était en 1985, Serge Laïc.
Absolument. Et alors c'est en 1998 que Maurice André et Michel Legrand, cette fois-ci, enregistrent deux albums avec l'Orchestre Philharmonique de Londres. L'un d'eux, de ces albums, fut consacré aux musiques de Noël et Maurice André se souvenait bien de cet album particulier.
C'est un Noël que nous avons voulu faire avec Michel Legrand, des Noëls internationaux qui nous viennent de tous les pays du monde pour essayer de rapprocher les êtres humains qui en ont tant besoin. Dans ce disque, bon, il y a un grand orchestre et il y a mes enfants, il y a Béatrice qui joue du hautbois et mon fils Nicolas qui fait la trompette. Et le talent de Michel Legrand n'est plus à féliciter, à remarquer, parce que c'est vraiment un génie même, je dis. Et il a fait donc des arrangements pour 100, 120 musiciens, et c'est quelque chose d'incroyable. Avec, dans ma famille d'instruments, il y a le bugle, le cornet à piston, la petite trompette, la trompette avec les sourdines et tout ça. Je crois que c'est un des plus beaux disques que j'ai fait, avec le dernier que j'ai fait aussi avec Michel Legrand, qui était les moulins de mon cœur. J'ai mis tout mon cœur, en tout cas, moi-même. J'ai travaillé à raison de 6 heures par jour, ce disque de Michel Legrand, et puis un deuxième avec les Noëls.
Thank you.
Sly Ride, une promenade en traîneau, Maurice André et le London Philharmonic Orchestra, arrangé par Michel Legrand en 1998.
Et alors, c'est en 2012 que Maurice André disparaît à l'âge de 78 ans. Lors de ses innombrables concerts, l'un de ses morceaux de bravoure à Maurice André fut la badinerie de la suite numéro 2 en si mineur de Jean-Sébastien Bach. Et Maurice André avait également repris cette musique en compagnie de l'arrangeur Jean-Michel Defaille, celui de Léo Ferré pendant une dizaine d'années, et c'est une version teintée de jazz qu'avait signée Defaille.
C'était en 1972, la badinerie de Bach arrangée par Jean-Michel Defaille et jouée par Maurice André, dont vous nous parliez ce matin, Serge Laïc. Merci Serge.
Merci cher Benoît.
Et puis on se retrouve pour Noël, tous
Absolument.
Les deux.
Absolument.
Voilà. Et alors, vous le savez aussi, malheureusement, nous avons appris la mort de Stephen Sondheim. J'en ai pas parlé ce matin puisque nous avions la joie d'accueillir Michel Jonas, mais vous retrouverez Stephen Sondheim dans un instant à 13h dans Ciné Tempo avec Thierry Jousse et aussi demain matin dans 42e rue avec Laurent Vallière.
À réécouter sur francemusique.fr.